Aujourd'hui, l'anniversaire de l'arrestation d'un jeune martyr vietnamien, un rédemptoriste, le frère Marcel Van. Il a été arrêté un 7 mai par les communistes et est mort quelques années plus tard dans des conditions terribles qui en ont fait un jeune martyr inspiré par Sainte Thérèse de Lisieux. C'est vraiment un fils spirituel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et sa béatification est à l'étude. Il est né en 1928 et il est mort à 31 ans en 1959. On l'appelle Van en général, on parle de Van. Son nom de religion, Marcel, Marcel Van. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il est né dans une famille profondément chrétienne, c'est un modèle pour les enfants chrétiens. C'était à l'époque un Vietnam bouleversé par la guerre. Et il a su qu'il y a une sainteté pour les enfants qui rient, qui sont espiègles comme les autres. C'était un enfant normal, quoi. Et très tôt, il sent en lui la vocation d'être prêtre et il choisit Thérèse de Lisieux pour être son modèle, sa grande sœur, qui va lui montrer le chemin de la sainteté. Il n'est pas le seul, il est par milliers qui se modèlent sur Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse lui répond à un moment donné, dans un rêve, une apparition, je ne sais trop. Van, tu seras désormais personnellement mon petit frère, comme tu m'as choisi pour être ta grande sœur. À l'école de sa grande sœur, bien, il imite sa petite voix spirituelle. Il finit par entrer au séminaire des rédemptoristes. Il est arrêté un 7 mai 1954 à 26 ans par les communistes, puis il meurt d'épuisement 59 à 31 ans. Ce jeune homme extraordinaire s'est offert tout entier pour l'Église, pour son pays, il a réalisé le rêve. Ce rêve qu'avait Thérèse d'Enfant Jésus dans son cloître à Lisieux, en Normandie, en France. Elle qui voulait mourir martyr au Vietnam, vous vous souvenez? C'est une vie passionnante que Van pour les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, d'un apôtre de l'amour de Dieu. Alors je m'inspire d'un livre écrit exactement pour les enfants, les jeunes, les moins jeunes aussi, comme moi, et qui était simplement intitulé « Van, petit frère de Thérèse ». À l'époque où naît Van, le Tonkin, mon Dieu, comment vous expliquer? Vous devez savoir ça, hein, c'est dans l'Indochine d'aujourd'hui, c'est dans cette péninsule qui s'avance, là, dans l'océan. Et le Tonkin, bien, c'est au nord, à droite, en haut, près de la Chine. Alors, il naît là, près de la Chine, dans le Tonkin. Et comme la majeure partie de l'Indochine, c'était gouverné et administré par la France. À cette époque, c'était encore l'époque coloniale. Alors, il naît dans un petit village du Tonkin, entre Hanoï, on connaît les noms, et Hanoï, dans les nouvelles, puis Haiphong, un peu moins. Ce village s'appelle Ngang Jiao. Et c'est là que le 15 mars 1928, il est né donc 2 ans avant moi, dans une modeste famille chrétienne, qui compte déjà 2 enfants. Et puis, c'est là que Van naît, baptisé dès le lendemain, un enfant gay, sensible. Mais il a quelque chose de spécial. Un peu comme Thérèse, l'enfant Jésus, c'est terriblement entêté. Oui, un entêté. Ça va lui jouer de bien mauvais tours. Mais ça va le mener à la sainteté. Sa mère remarque très vite, heureusement, qu'une observation faite avec douceur a raison de ce caractère plutôt inflexible qu'il a. Il est très volontaire. Van ne consent à se mettre d'ailleurs au lit qu'après la prière du soir, dit-on. Puis, il demande toujours à sa mère de le réveiller le matin, parce qu'il veut faire la prière du matin avec tout le monde. Alors, il se jette d'instinct sur tout ce qui peut élever son âme, ce petit garçon. Tout ce qui peut l'avancer sur ce chemin-là, il voit que ça le conduit vers Dieu, vers le Seigneur Jésus. Il a entendu son père d'ailleurs lire la vie du bienheureux Tin, qui avait tout quitté lui pour vivre en ermite dans la forêt. Alors, il est tout petit bonhomme, puis il veut alors imiter cet ermite. Il s'exerce à la vie de solitude, puis de privation, des petites privations d'enfants. Hein. On avait noté ça, c'était sympathique. Un peu comme nous, on jouait à la messe quand nous étions jeunes. Et comme Thérèse d'Avila qui rêvait de partir sur les routes pour aller se faire martyriser. Hein? Heureusement que son oncle l'a arrêté en route, là, au 16e siècle. Alors, est-ce qu'il aime tellement être seul, hein? Il pense aux saints ermites, s'exerce à imiter ce qu'ils font, des petits travaux, des prières agenouillées, des gestes de pénitence. Il s'amuse à faire l'ermite, on peut dire. Drôle de jeu. Après le repas du soir, en famille, il écoute ses cousins lire la vie des saints, puis il en tire aussitôt une résolution. Quelle résolution? Les imiter en tout, en tout. Il est total, hein? Il est comme Thérèse enfant Jésus. Et à 6 ans, c'est la première communion. Mais Van est si petit que le curé, qui s'appelle l'abbé Na, N-H-A, Na, c'est un personnage qui va revenir, il hésite puis il décide de lui imposer un complément de catéchisme. Or, le catéchiste qui enseigne, là, un peu brutal, un peu borné, c'est étrange pour un catéchiste, il fait apprendre les leçons par cœur, puis au besoin, ben il bat un peu les enfants. Mais heureusement, l'abbé Na passe le voir pour interroger les enfants, puis ils encouragent les uns, stimulent les autres. Puis finalement, arrive la veille du grand jour, mais il faut d'abord se confesser. Hein? Vous vous souvenez, on se confessait avant de communier. La première fois, hein? On était bien jeunes, moi j'avais 6 ans. Et voilà bien une autre affaire. Van est si petit que sa tête n'atteint même pas la grille du confessionnal. Mais on résout le problème. Il reçoit l'absolution, puis s'entend dire « Demain, tu pourras communier. » Alors là, c'est l'explosion de joie. Hein? Puis la nuit lui paraît interminable. « Enfin, écrit-il, parce qu'il a écrit, hein, il faut lire les écrits spirituels de Marcène Van, publiés par le père Marie-Michel. Ça s'appelle « L'amour me connaît ». C'est publié chez Le Sarment Fayard, une grande maison d'édition. Et on a publié aussi sa correspondance de Marcel Van sous le titre « L'enfant de l'aurore », toujours par le père Marie-Michel, toujours aux éditions Le Sarment Fayard. Et le père Marie-Michel a publié même la vie, très belle vie que je vous recommande à tous, hein. « L'amour ne peut mourir », c'est la vie de Marcel Van au Sarment Fayard encore. Ce sont de très beaux livres, magnifiquement édités, avec des photos de Marcel Van en couverture. Alors donc, il a écrit « Enfin Jésus arrive, mon cœur est envahi par une joie extraordinaire. Je ne sais quoi dire pour exprimer tout le bonheur dont mon âme déborde. Maintenant, il ne reste plus que Jésus et moi, qui ne suis que le petit rien de Jésus. » Et brusquement, Van est tiré de son action de grâce, parce qu'il y a un prêtre qui fait réciter aux enfants des prières toutes faites. Et c'est une irruption un peu brutale pour lui. Dans la douceur de son entretien avec Jésus, il a noté ça. Mais en ce jour, il est heureux quand même. Il demande à Jésus deux grâces, la pureté afin d'aimer Dieu de tout son cœur, puis une foi solide et parfaite pour tous les hommes, tout simplement. À la maison, sa petite sœur, Anne-Marie T., que je salue et qui m'écoute, elle est chez les Rédempteuristines. Oui, à Sainte-Thérèse, elle est là. Oui, avec Véronique No qui vient d'entrer, la rejoindre, qui est venue me saluer avant de partir ici et qui écoutait mes émissions. Elles écoutent mes émissions, les Rédempteuristines. Je les salue toutes, ces chères sœurs merveilleuses. Alors Anne-Marie T., sa petite sœur, est rayonnante de joie. Elle court à lui, appuie sa tête sur sa poitrine pour voir si Jésus, dit-elle, est présent en lui. Et s'y remue ou non. Et plusieurs fois dans cette journée de fête, elle viendra vers son frère pour entendre Jésus, dit-elle. C'est des enfants, mes petits Vietnamiens croyants. Hein? Alors Van décide d'offrir sa première semaine de communion pour son père, qui néglige son travail, qui s'adonne à des jeux d'argent, qui s'éloigne de Dieu. Alors il fait un vœu, et puis 10 ans plus tard, il va être exaucé. Peu de temps après sa première communion, Van reçoit le sacrement de confirmation, puis il reçoit en même temps, tréfonce son cœur l'appel du Seigneur. C'est toujours cet appel de Dieu. Il en parle à sa mère. Mais c'est un grand secret. Elle en est heureuse, mais elle lui demande d'être patient. Hein? Mais lui a hâte d'être grand. En attendant, bien, Van a dépassé ses 6 ans, puis il faut aller à l'école. Quelle école, hélas! Il y a un maître impitoyable là, qui fait régner la terreur, encore une fois. Les coups pleuvent, les châtiments. 2 mois de ce régime, Van en tombe malade. Alors en mai 1935, Van a 7 ans, Mais son épreuve scolaire l'a trop ébranlé. On décide qu'il ne retournerait pas à cette école. Et sa mère pense à l'abbé Josephna qui revient, voyez-vous. Elle l'a eu comme professeur. Puis il est curé à 35 kilomètres d'Hanoï. Je vous ai dit qu'il était né dans la région d'Hanoï. Alors, dans le nord, là, du Vietnam, du Tonkin. Et l'on part. Alors, il passe par Bac Ninh. Puis Van est émerveillé. C'est la première fois qu'il voit une ville. Et sa mère lui dit, « Ces beautés que tu vois ne peuvent donner à l'homme un bonheur durable, mon enfant. Seul l'amour de Dieu est stable, et la chose la plus belle, c'est d'accomplir, dans la joie, sa volonté. » On peut se dire que si toutes les mères parlaient comme ça à leurs enfants, les enfants seraient vraiment bien élevés, hein? Et on peut parler aux enfants comme ça. Les enfants comprennent. Moi, à 6 ans, une femme m'a dit des choses extraordinaires, que nous étions sur la terre pour apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à le servir, pour être heureux avec lui pendant l'éternité. J'avais 6 ans et j'ai bien compris. Ça m'est resté pour toujours. Enfin, je m'excuse de parler de moi, il y a des gens qui aiment pas ça, mais enfin. Enfin, on atteint Ubang, un village accueillant, puis son curé, l'abbé Na. Alors, pour desservir un territoire très étendu, il a quand même un vicaire, et puis un professeur, un surveillant, quelques catéchistes. Après quelques années, donc, de catéchisme, d'études, et puis d'aide à la paroisse, là, les plus capables, entrer au petit séminaire, puis là, devenir prêtre, c'est son rêve, hein. Il aspire à ce bonheur, mais avant de réaliser son idéal, il va connaître des moments très, très, très difficiles, et lorsque sa mère, au terme de cette visite, lui propose en plaisantant de rester, il dit oui, tout de suite. Elle a le cœur broyé, mais elle l'offre. Mais Van ne sait pas ce qui l'attend. Tout commence bien. Devient très vite enfant de cœur, sert la messe. Et puis messe, catéchisme, études, chapelet, bon, il se distingue partout. Et cette supériorité ne tarde pas à exaspérer ses camarades. Ils le jalousent. Et ça tourne un peu à la haine. Et l'un des catéchistes qui était plutôt tiède dans sa foi le déteste vraiment. Il s'appelle Vin, V-I-N-H, ce catéchiste, et il le bat. Et tous les matins après la messe, il appelle Van dans sa chambre, il se livre sur lui à toutes sortes de violences, il l'oblige à se coucher par terre, lui administre une volée. Alors chaque jour, il est battu comme ça. Mais la souffrance l'empêche de dormir, même de s'asseoir. Et un jour, une servante de la cure remarque les traces de sang sur le linge de Van. Alors le curé est alerté, alors Van se croit libéré. Mais alors, ce sont les catéchistes qui décident de former un tribunal pour juger Van. Et on lui fait énormément de chagrin, puis on lui défend de communier. « Tu veux communier, alors tu jeûneras toute la journée, lui dit-on. » Il est à bout de force, le pauvre garçon. Il peut à peine se lever, communier tous les jours. Ils disent que c'est de l'orgueil, mais suis-je vraiment digne de recevoir Jésus chaque jour? Alors il perd d'appétit, perd de sommeil, puis il y a de la fièvre, mais il récite son chapelet. Et Vin lui confisque son chapelet. Alors finalement, il récite son chapelet sur ses doigts. Et un beau jour, le responsable le tortionnaire pour refus d'obéissance est chassé par le curé. Heureusement, Van respire. Il est débarrassé de Vin. Mais c'est tout. Vin n'était pas la seule cause de ses tourments. Il y a l'abbé Na, ce curé qui devient un peu décevant. Il s'occupe, par la force des choses, de bien des aspects matériels, hein. Puis il y a aussi une atmosphère de laisser-aller, tout à coup, qui s'installe. Il y a de l'alcool qui s'introduit dans cette école. L'alcool, les grossièretés, les jeux d'argent. Puis il y a, d'un comble, des filles du village qui traînent jusque dans la cure. Et Van se sent seul, abandonné. Personne ne s'occupe de ses études. Puis le sacerdoce est si loin, les études, mais maintenant son temps est dévoré, grappillé par le travail manuel, les corvées de toutes sortes. Il est devenu le boy du curé, c'est-à-dire son valet. Et voici qu'une inondation anéantit les récoltes. C'est la famine, une poignée de soja, puis 100 grammes de riz par jour pour ce pays où le riz est à la base d'alimentation. Il n'en peut plus. Il est à la merci du curé des catéchistes et il souffre amèrement. Mais dans cette détresse, il trouve le moyen de donner. Il donne tout ce qu'il possède. Il est d'une générosité sans faille. Alors, je vous disais qu'il était à l'école dans une assez grande détresse. Il y a des inondations. C'est la pauvreté, mais il donne ce qu'il possède. Un jour, une dame riche prend le petit Van chez elle. Elle le soigne, elle le dorlote pendant 6 mois. C'est 6 mois de douceur, enfin. Mais les épreuves reviennent. Il faut retourner à l'école. C'est désolant. De nouveau, le travail domestique. Le temps perdu pour les études. Toujours cet autre danger, là, les filles qui rôdent autour de la cure, hein, qui s'y infiltrent et qui excitent les garçons. Mais la vie harassante et désespérante en continue pas moins. Hein. Van décide de s'enfuir. Après une première tentative, qui est manquée par l'épuisement, parce qu'il y a de la misère à courir, il réussit la seconde fuite, puis retrouve enfin la maison de son père et de sa mère. Mais il est très déçu. Ses parents sont indignés d'une pareille révolte envers un prêtre, l'abbé Na, à qui ils accordent une confiance absolument aveugle. Les autres, ses parents lui font des reproches vraiment violents. Alors seule sa petite sœur, Té, le console, est là. La mère enfin lui ouvre les bras. Mais c'est pour lui conseiller de retourner à l'école qui est assez éloignée. Alors, il y va, et puis c'est la faim, il a faim. Puis les catéchistes qui sont grossiers puis brutaux, puis il y a les filles toujours. Non, décidément, c'est pas supportable. Alors, il décide de fuir définitivement. Et sachant qu'on va le chercher, il monte dans un arbre, mais on ne le trouve pas. C'est réussi, sa fuite. Mais il faut vivre. Et puis, il prend un train, il arrive à la gare, là, et dans une ville, et puis... C'est pas facile de survivre là-dedans. Il trouve du travail, un jour ici, un jour là, laveur de vaisselle, porteur d'eau. Il sert d'aide à un marchand de soupe, il partage le pain, bon, puis c'est du vagabondage. Ce pauvre petit Van en éprouve les dangers, dont celui de tomber entre les mains d'un trafiquant d'enfants. Il réussit à échapper, puis à la prostitution, c'est terrible. Mais c'est pour tomber finalement dans la misère. Voilà réduit à mendier pour survivre et par tous les temps. La nuit, il dort à la belle étoile, il est amaigri et sale, comme ses enfants abandonnés. Comme cet enfant que le bon Dieu m'a donné la grâce d'adopter il y a... Ah, comme je m'ennuie de cet enfant. Alors il décide alors de rentrer en secret à l'école pour prendre de l'argent. Et puis... qu'il a laissé là-bas, puis il veut filer chez sa tante. Mais sa tante le ramène chez ses parents. À la maison, c'est le même accueil que la première fois, et son père le condamne sans appel. Sa mère elle-même le traite comme si Van n'était plus son enfant, et bientôt, ce sont non seulement ses parents qui le rejettent, mais toute sa famille. Car la Béna est venue, là, dans son village natal, pour l'écraser de calomnies qui font le tour du village. Alors Van en vient lui-même à se regarder comme un être abject. Et puis, à Noël 1940, il est tout jeune encore, il a 12 ans, quoi, presque 13 ans, il raconte cette messe de minuit, il dit « Dans mon cœur, il faisait sombre et froid. Jésus seul était mon espoir. Et voici l'heure tant désirée, l'Eucharistie. Une joie immense m'emporte hors de moi-même. J'ai trouvé le plus précieux trésor de ma vie. Alors, en un instant, mon âme fut transformée. Je n'avais plus peur de la souffrance. Dieu me confiait une mission, celle de changer la souffrance en bonheur. Pour Noël, j'avais reçu le cadeau de l'amour. Après l'ascension, c'est l'ascension dimanche prochain, tiens, Van retourne chez ses parents, qui, cette fois mieux renseignés, lui font bon accueil. Mais la Béna réclame le retour de l'enfant dans son école. La mère est réticente. Elle conseille à son fils de prier pour connaître la volonté de Dieu. Puis après une journée de prière, Van accepte. Il retourne. Retourner dans ce lieu où il n'a connu que les corvées, les affronts, les injures, les coups, la faim, les larmes. Eh bien oui, il veut vaincre le mal par l'amour. Il y retourne et Dieu sait s'il en a à faire du travail. Rien n'a changé. C'est encore tout comme autrefois. Que faire, là, comment? Alors d'abord prier. Alors là, les yeux fermés, Van a comme une vision, comme un film qui se déroule dans sa tête. Dans ce monde pourri, les enfants tombaient dans la souillure, c'est ce qu'il voyait. Il en est épouvanté. Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse ici? Alors, de ce film qui continuait, puis qui montrait cette fois un monde de perfection, la réponse vient. Qu'est-ce que c'est la réponse? Rester pur et devenir un saint. Or, les filles, plus ou moins prostituées, qui rôdent autour de la cure, sont toujours là. Les catéchistes aux propos obscènes aussi. Puis quelques garçons dévergondés. Il y a un tas de petits dont Van devient bientôt le chef et dont il forme un groupe. Il les appelle les anges de la résistance. Alors, on tient des réunions secrètes, on décide de résister, de protester, mais d'abord de prier, de pratiquer la charité, d'avoir toujours confiance en son ange gardien. En peu de jours, ces enfants sales, paresseux, violents sont devenus doux, énergiques, propres. Van se fait rassurant. Doux agneau, au point que le catéchiste de sa bande, et sa bande plutôt, décide de le prendre comme agent de liaison entre eux, puis les filles qui sont toujours présentes et actives. Alors il est chargé, c'est assez curieux, de transmettre des lettres d'amour, puis leur réponse. Alors il les recopie, lui. Puis il parle clairement d'amour chrétien. Alors les filles sont complètement désorientées, ça les transforme. La Providence dirige le destin de Van, là, il a 13 ans. Le lendemain de Noël 1941, il reçoit une lettre de son ami Tan, qui est élève dans un petit séminaire à Langson. Il écrit à Van que le père directeur accepte de nouveaux élèves et il lui dit « Viens vite ». Alors l'abbé Na, son supérieur, l'autorise à partir, à condition de n'emporter rien. Alors un matin de 1942, il arrive au petit séminaire avec un habit noir, des sandales innommables, écrit-il. Le lendemain, son ami Tan lui procure des vêtements qui proviennent du Carmel de Saïgon. Et c'est ainsi que Van va découvrir le Carmel et par lui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Très Sainte Face. Cette Sainte Face qui a été attaquée aujourd'hui aux nouvelles. Hein? À Radio-Ville-Marie, bien oui. Et qui va devenir son idéal, sa conseillère et son guide. Van s'adapte vite à sa vie de séminariste. Il apprend le français et est admis dans la troupe des cadets de Notre-Dame, qui a pour but de faire de ces jeunes des témoins de l'Évangile. À la Pentecôte 1942, il fait sa promesse scout, puis il reçoit comme totem l'écureuil, ça vous dit quelque chose. Pourquoi l'écureuil? Parce que c'est joie et rapidité de l'ascension vers Dieu par l'accomplissement de sa volonté. Il veut devenir prêtre. Il s'applique à respecter à la lettre le règlement du séminaire. La résolution, ne jamais mépriser les petites choses. À l'été 42, la joie d'une bonne nouvelle. Avec deux autres garçons, il est choisi pour continuer ses études à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Très Sainte Face. À Quang Uyen, tout près de la frontière chinoise. Alors c'est la joie de reprendre les études. Mais le chemin de la sainteté à laquelle il aspire lui paraît bien décourageant, hein? Pour être un saint, il faudrait jeûner, peut-être administrer la discipline, il faudrait endurer le froid, la faim, puis passer de longues nuits en prière. Et s'il en est ainsi, autant renoncer tout de suite. Après tout, saint Augustin, est-ce qu'il ne l'a pas dit, aime et fais ce que tu veux? Alors, l'amour ne doit-il pas suffire à la sainteté? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas péché par orgueil, là, en prétendant vouloir être un saint, puis un saint à sa façon? Alors, pour éclairer le chemin, rien ne vaut la prière, et Van le sait, prier et prier encore et toujours, et dans le doute qui le torture, ne sachant si ses pensées viennent de Dieu ou du démon, il s'adresse à la Sainte Vierge, il la supplie de lui donner un signe, puis il va dans la salle d'études vider tout un rayon de vie de saint. Il prie la Mère de Jésus de guider son choix. Et là, Dieu sait s'il en a lu de ses vies édifiantes pour savoir quoi. Il tombe sur l'histoire d'une âme par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Encore des jeûnes, des miracles, des pénitences, des extases peut-être, mais pas du tout. Dans l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est un langage simple, direct, qui parle d'humilité, des moindres actes de la vie quotidienne, d'un regard, d'un sourire, de tout ce qui peut inspirer l'amour divin. Alors, Van se dit, Dieu est amour, et cet amour s'accommode de toutes les formes de sainteté. Enfin, quel bonheur! Thérèse apporte la réponse à toutes mes questions sur la sainteté, vers quoi il n'y a pas un chemin unique, mais 1000 chemins, 1000 routes, 1000 sentiers, et d'un coup, la paix, une paix incomparable, règne dans l'esprit de Van, puis il est envahi d'une joie profonde, immense et indicible. Il a trouvé la petite voix de Sainte-Thérèse dans l'histoire d'une âme. Il a 14 ans. Alors, ayant découvert l'histoire d'une âme, il y a une explosion de joie au fond de son cœur. Il sort. Il se dirige vers la colline, puis se laisse tomber sur une pierre, puis regarde le soleil se lever. Et soudain, il entend une voix qui l'appelle. Une voix? Van, mon petit frère. Petit frère, écoute. Dieu est Père et ce Père est amour. Il a envoyé son Fils qui est venu dire aux hommes que l'amour du Père est une source inépuisable. Il nous a enseigné à lui dire notre Père. Dès lors, c'est un véritable enseignement que Thérèse de l'Enfant Jésus va prodiguer à Van. Et Thérèse insiste sur ce Dieu qui est le Père de tous les hommes. Elle lui dit, il faut donc que les hommes deviennent les enfants de Dieu. Les enfants bien-aimés d'un père bien-aimé. Alors, Van boit les paroles de Thérèse qui souligne encore, n'aie jamais peur de Dieu. N'aie jamais peur de Dieu. Il ne sait qu'aimer et désirer être aimé. Et Thérèse n'hésite pas à lui répéter, tu l'appelles père. Alors il faut que tu sois son enfant. Raconte-lui alors tout ce que tu veux, tes jeux, il a 14 ans, hein? Tes jeux, l'ascension d'une montagne, tes taquineries avec tes camarades, tes colères, tes larmes, ou même les petits plaisirs d'un instant. Alors il lui dit, mais petite sœur, Dieu connaît déjà tout ce que j'ai fait, quel besoin de le lui raconter. Et elle lui dit, c'est vrai, petit frère, Dieu connaît tout parfaitement. Dans l'éternité, tout est présent à ses yeux, Mais pour donner l'amour et recevoir l'amour, il doit s'abaisser au niveau d'un enfant comme toi pour entendre une parole intime jaillir de ton cœur. Lorsqu'un papa veut donner un baiser à son petit enfant, il ne peut rester planté tout droit en attendant que le petit se hisse jusqu'à ses lèvres. Il s'incline profondément pour le prendre dans ses bras et tu vois, il s'abaisse. Ne crains pas, cher petit frère. Plus tu seras pauvre, et plus Jésus t'aimera. Aie confiance. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit tout nous conduire à l'amour. C'est ce que je vous ai raconté le 1er avril en faisant une émission sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la confiance. Alors encore quelques mots de Thérèse, puis Yann et Tan, Tan son petit ami là, te cherchent. Il entend ça. Il commence à s'impatienter. Garde le secret sur tout cela. Je te défends d'en parler. Sois discret, tu entends? Et je te donne un baiser. Plus tard, Van va écrire, il me sembla que je sortais d'un rêve. Mais quand Thérèse me dit, je te donne un baiser, je sentis aussitôt, c'est étrange, comme une brise légère qui m'a effleuré le visage. Et j'étais envahi d'une telle joie que j'ai perdu un instant connaissance. Alors il revient à lui, puis il entend soudain la voix de ses deux amis, en effet, Tan et Yann, puis ils disent, questionne, bien entendu, que faisais-tu dans la montagne pour être si joyeux? Ah, il dit, c'est un grand secret. Puis les questions redoublent. Puis, tout simplement, il crie « Thérèse m'aime, Thérèse m'aime ». Alors, on va s'établir des entretiens presque quotidiens entre Thérèse et lui. Van prie pour les enfants, les prêtres, les pécheurs. Van, cesse de te tracasser, abandonne-toi entre les mains de Dieu, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Elle lui souhaite bon appétit, toutes sortes de choses simples. Un jour se pose une grave question. Même si c'est par des missionnaires français que le message du Christ est parvenu à son pays, même s'il a appris à parler français, Van reste vietnamien du fond du cœur, hein? C'est un patriote ardent. Il n'aime pas vraiment l'ensemble des Français qu'il voue volontiers à la damnation éternelle, car la France coloniale, comme la plupart des pays qui ont des colonies, Cette France dont le prestige doit tout à ses administrateurs, ses ingénieurs, ses missionnaires et ses soldats est bien mal représentée souvent aux yeux des Vietnamiens par trop de commerçants avides puis des colons méprisants. Hein. Alors voici qu'un jour, Thérèse lui demande de prier pour la France et le Vietnam. Elle a eu une réaction, Van. Je vous ai dit, il avait du caractère. Il dit, priez pour ces diables de Français colonialistes, jamais. Qu'on les précipite en enfer pour leur montrer qui nous sommes. J'ai trop vu leur mépris envers les gens de mon peuple. Thérèse, je suis de race vietnamienne. Est-ce que tu comprends ça? Je n'ai jamais eu l'idée de prier pour cette bande d'arrogants. Si je n'avais qu'un seul revolver, je pense... Oh, non, non, vraiment. Je me lèverais. Oh, tuer un seul Français suffirait peut-être à mon bonheur. Il regrette ses paroles. Silence de Thérèse. Petit frère, moi non plus, je n'approuve pas ceux des Français qui se comportent mal avec le peuple vietnamien, mais j'ai une autre tactique que le revolver, mon petit Van. Il s'agit de la tactique de la prière. Tu dis, ô Jésus, viens chasser du cœur des Français l'homme pécheur, et ainsi ils aimeront le peuple vietnamien. Mais pour cela, il faudra beaucoup de prières et de sacrifices. C'est la meilleure façon de te venger des Français, comme tu dis. Alors, Van est stupéfait, il n'avait pas pensé à cela, ce petit nationaliste. Mais, comme le dira Thérèse un autre moment, c'est un moyen plus sûr que le massacre. Il faut être l'amour de l'amour, dit-elle. Une indiscrétion de Tan a répandu un bruit. Il a dit, Van a des apparitions de la Sainte Vierge dans la montagne. Et puis, le petit Yen a compris... Et il ouvre son cœur à Van et dit, « Je veux demander à Sainte Thérèse d'être aussi ma sœur spirituelle. J'aimerais ça, moi aussi. » Alors, Van écrit, « Connaissant ses désirs et ses souffrances, je lui donnais des conseils. Yen a été mon premier petit frère. » Et Van, lui, poursuit toujours son rêve, le sacerdoce. Mais Thérèse finit par lui dire, « Tu ne seras jamais prêtre. » Il éclate en sanglots. Il accepte... la vocation d'être un apôtre caché de l'amour. Thérèse, en quoi consistera ma vocation si je ne deviens pas prêtre? Bien, tu entreras dans un couvent, tu te consacreras à Dieu. Il répond, il n'y a qu'au Carmel qu'on mène une vie cachée. Alors j'entre au Carmel et elle lui dit, si Dieu veut bien te changer en fille. Et évidemment, il ne change pas en fille. Il faut trouver un couvent. Pense aux Dominicains, aux Cisterciens. Et puis une nuit, il fait un rêve, il y a un personnage vêtu d'un ample manteau qui lui apparaît, puis il reconnaît Saint Alphonse de Liguorie, le fondateur des rédemptoristes. Thérèse lui dit, c'est la Sainte Vierge qui a envoyé vers toi, Saint Alphonse. Et en te disant, veux-tu? Il te demandait si tu voulais entrer dans la congrégation du Saint Rédempteur. Puis elle lui annonce des difficultés et des épreuves de toutes sortes. Mais enfin, une flèche dans le cœur de Van. Petit frère, tu ne m'entendras plus. Mais je resterai toujours près de toi. Je te souhaite quand même un heureux voyage sur la route de l'amour divin. Aimez Dieu et vous vous détacherez de tout. Van commence à vivre cette parole célèbre de Saint Alphonse de Liguorie. Aimez Dieu et vous vous détacherez de tout. Le silence de Thérèse... C'est un cruel commencement pour lui. Il souffre de son absence. Et après un court passage dans son ancienne école, Van rentre dans sa famille, commence à faire par lettre des démarches pour entrer chez les rédemptoristes. Puis enfin, le 22 juin 1944, une bonne nouvelle, il est admis au couvent des rédemptoristes. Il a 16 ans et 3 mois, mais sa famille est ruinée par la faute de son père. Il ne peut pas avoir le trousseau nécessaire, alors il est obligé de mendier. Finalement... Il part, sa mère lui dit, « Souviens-toi que Dieu donne sa paix à ceux qui la cherchent uniquement. » Alors à Hanoï, le 16 juillet 1944, il est au couvent. On lui demande, « Quel âge as-tu ? » Il dit, « J'ai 16 ans. » On ne le croit pas. On prétend qu'il n'en a que 12 tellement il est petit. La porte du couvent se referme. Il revient à la maison. Il est déçu. Puis, il est retombé dans le noir. Mais soudain, une lettre... Il reçoit une lettre. Vous serez reçu chez les rédemptoristes comme domestique. Alors il y va. C'est l'entrée au postulat finalement le 17 octobre 1947. On lui attribue une cellule, une petite pièce, avec un crucifix, quelques images saintes. Mais il faut affronter les premières épreuves de la vie de rédempteuriste. Il doit être cuisinier. C'est le plus dur, le plus sale des métiers, récurer les casseroles, laver les parquets. Ou une ou deux fois, des confrères postulants qui sont loin d'être des saints se moquent de lui parce qu'il est petit. Mais il y a Thérèse qui lui dit « Petit frère, à part le bon Dieu, tout le monde se trompe. » Prends patience, j'aime bien ça. À part le bon Dieu, tout le monde se trompe. Que c'est sympathique. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Il se souvient de ça, il applique la parole de Jésus. Selon la coutume des ordres religieux, il doit changer de nom. Il doit s'appeler Marcel. Et une après-midi paisible, le van travaille en silence. Il médite sur les souffrances du Christ quand soudain, il sent son âme emportée par l'amour, la présence de Dieu. Dieu lui parle, lui dit, « Van, m'aimes-tu beaucoup ?» Et il répond, « Oh mon Dieu, oui, je vous aime beaucoup. Hors de vous, qui donc aimer ?» Alors commence un entretien avec Jésus. Il dit, « J'avais l'impression, dira Van, d'être plongé dans les profondeurs de l'amour et de disparaître dans le cœur de Dieu. » Dans son immense bonté, Jésus me demandait de lui raconter les petits faits de ma vie. Il voulait que je lui parle de mon travail de chaque jour, des difficultés avec les autres frères, de ce qui me faisait souffrir, etc. Il me disait que pour son amour, tout était précieux, que celui qui aime ne cache rien à son bien-aimé. Comme Thérèse avait raison, voici que le Seigneur demandait à Van ce qu'elle lui avait conseillé de lui offrir. Et on arrive en juin 45, c'est la deuxième guerre. Il est saisi un soir d'une vision terrible. Alors il voit Jésus s'avancer vers lui. Il dit plein d'amour et de bonté. Je me vis alors changer en tout petit enfant. Et soudain une foule s'avança, hommes, femmes, enfants de tout âge, hurlant et blasphémant, lançant des pierres sur Jésus qui me pressait contre son cœur. J'étais un tout petit enfant. Et au milieu des injures, il regardait cette foule avec amour. Cette foule d'ennemis de Jésus, de l'Église, foule de haineux, d'incroyants, il disait « Sauvez-les, sauve-les », Jésus lui disait. La nuit suivante, il est réveillé en sursaut, il dit « J'ai eu le sentiment qu'un docteur qui était un croyant, que je connaissais, était à l'agonie. Je récitais aussitôt trois ave. Et le reste de la nuit, il est troublé, il est fiévreux, il est altéré. Et au matin, il apprend la mort du docteur. Alors, il demande alors au Seigneur un signe, comme quoi ce médecin s'est converti avant de mourir. Et il apprend que la conversion de son père vient d'être accomplie. Lui qui était éloigné des sacrements, il s'est confessé. Il a fait ses Pâques. C'est le signe que le médecin aussi s'est converti. Il pense aux enfants. Le monde tue l'âme des enfants, sous mes propres yeux, lui dit Jésus. Van, as-tu bien compris? Il faut arracher les enfants aux ténèbres du monde, alors fais-leur connaître le royaume des cieux. Un jour se lèvera une multitude de jeunes apôtres de l'amour, des témoins de la lumière. Et à l'automne 1945, le jeune rédempteuriste continue d'être favorisé d'une série de dialogues avec Marie, avec Thérèse, qui est revenue, avec Jésus. Jésus lui dit un jour, « Mes prêtres, Van, si eux-mêmes sont en révolte contre moi, hélas, il en est qui me traitent sans façon, trouvent mes paroles excessives. Certains même osent se servir de mon nom pour perdre les âmes. » Dis souvent cette prière, Van, « Ô Jésus, roi d'amour, faites que le règne de cet amour s'établisse au plus intime du cœur de vos prêtres. » Alors, il y a la défaite de 1940 qui a gravement atteint le prestige de la France. Et depuis, en 1945, les Français n'avaient pu s'opposer à l'occupation d'Indochine entière par les Japonais. En septembre de la même année, Ho Chi Minh, vous vous souvenez, fondait le Parti communiste vietnamien. Puis bientôt, c'est la lutte pour l'indépendance. Dans cette courte période de paix qui s'écoule entre la fin de la guerre mondiale et le début de la guerre d'Indochine, Van commence son noviciat et en septembre 1945, il prend l'habit de rédempteuriste et un an après, il fait sa profession. C'est le 8 septembre 1946, en la fête de la petite fête de Noël, la fête de la nativité de Marie, Et comble de joie, le 8 septembre, c'est le jour même où Thérèse avait fait sa profession. Il a 18 ans et demi. Or, du lendemain, 9 septembre, Van va écrire « Après un dernier entretien où il me fit ses ultimes recommandations, Jésus me laisse seul dans la nuit. » Mais il trouve cependant l'appui de son père spirituel, le père Boucher, qui est maître des novices. Le 7 février 1950, Van part pour Saïgon. Il souffre comme une victime. À bord d'un avion d'Air France, il quitte à grand regret cette maison des rédemptoristes d'Hanoï, où il a fait son noviciat, un voyage qui dure 3 longues heures, il éprouve beaucoup. Et le 3 septembre 1946, Van avait eu soudain une vision de Marie. Il trouve que son visage a beaucoup de ressemblance avec celui de l'enfant Jésus, mais en moins joufflu, dit-il. Mais que demande-t-elle à Van? D'abord, elle aussi, comme Jésus, comme Thérèse, prier. Prier encore. Prier sans cesse. Elle répète que la prière est l'arme la plus sûre contre les forces du mal, que le règne de l'amour divin et que son règne à elle, la Vierge Mère, sont indissociables, mais ne se fondent solidement que sur la prière. Je vous signale que les éditions Pauline ont publié une dizaine d'années « Frère Marcel Van » par Charles Bolduc, avec un avant-propos, du père Antonio Boucher. Je viens de vous parler du père Boucher, c'est lui qui a accueilli au noviciat Marcel Van. Alors, il y a un avant-propos de ce père Boucher, bien oui, publié aux éditions Pauline, « Frère Marcel Van ». Très beau livre que j'ai lu il y a bien des années. Alors à Saïgon, où il a été chaleureusement accueilli, Van est employé à divers services et particulièrement à la taillerie. Cependant, entre ce travail, là, les heures de communauté, ses prières, les méditations personnelles, il trouve le temps d'une volumineuse correspondance qui a été publiée avec ses anciens supérieurs d'Hanoï, avec sa famille, surtout sa petite sœur Anne-Marie T, qui vit chez nous, chez les Rédemptoristines, au nord de Montréal, à Sainte-Thérèse, et qui deviendra elle-même, donc, cette sœur merveilleuse que nous avons au Québec. Il donne à ses frères et sœurs des conseils pratiques pour aider ses parents tombés dans la misère. Mars 1952, il a 24 ans. Van part pour Dalat, à 300 kilomètres au nord-est de Saïgon, pour un stage de 6 mois, puis prononce enfin ses vœux perpétuels. Puis il fait le lavage. À Hanoï, un père dit à Van, « Tu es toujours joyeux. Je suis sûr que plus tard, au ciel, tu passeras ton temps à rire. » Il écrit à sa petite sœur Anne-Marie T, « J'ai connu la souffrance, l'amertume, l'humiliation, les traitements inhumains. Eh bien, plus j'avance et plus je vois que la sainteté est une vie où il faut changer la tristesse en joie. Il vit pleinement la parole de Jésus qui dit, « Votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » Alors, il se voit un jour poignardé. Peut-être a-t-il lu la vie de Charles de Foucault. Et puis le 7 mai 1954, le 7 mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui, il a 26 ans. Ah, oh, c'est pas des blagues, c'est pas facile. L'armée française perd la guerre contre le communisme. Et cette défaite entraîne les accords de Genève, qui coupent le Vietnam en deux. Et le Nord tombe sous le pouvoir communiste, ce qui provoque immédiatement un exode massif des populations terrorisées. On fuit vers le Sud, encore libre. Le 14 septembre, l'exaltation de la Sainte-Croix, un avion emporte Van vers Hanoï au nord, capitale du nouvel État communiste du Viet Minh. C'est Van lui-même qui s'est porté volontaire pour rejoindre la communauté rédemptoriste réduite à 3 prêtres. Dans les paroisses, quelques fidèles et un prêtre ont eu le courage de rester pour maintenir la présence chrétienne. C'est un régime de terreur épouvantable, terreur policière, persécution religieuse qui s'instaure. Hein? Hanoï. Quelle désolation, écrit-il à sa petite sœur T. Il y règne un silence d'agonie, les rues presque vides, les boutiques fermées, les tireurs de pouce réduits au chômage, un client pour 10 voitures. On ne voit plus en ville que des gens de la campagne, et c'est en vue de l'évacuation vers le sud. Alors il dit que les Viet Minh ne peuvent tolérer la religion catholique dont la doctrine est à l'opposé de leur idéologie communiste. Le christianisme est l'obstacle principal à la diffusion du communisme. Il s'agit donc pour les nouveaux maîtres d'en nettoyer les esprits. Van entend parler de procédés révoltants. on jette des prostituées dans les bras des prêtres pour leur faire manquer aux vœux de chasteté. Ce jeune frère Van commence d'ailleurs à sentir peser sur lui-même toute cette contrainte policière. Il faut constamment surveiller ses paroles et les gestes. Et le 7 mai 1955, Van part pour le marché. Dans la rue, il entend des gens déblatérer contre le gouvernement du Sud qui l'accuse des pires exactions. Alors sèchement, il interrompt les parleurs et dit « Moi, j'en arrive du Sud et je peux vous dire que ce gouvernement démocratique n'a pas agi de la sorte. » Un lourd silence. Il aurait fallu se taire, hein? La provocation a réussi. Ben oui, ça consiste à parler haut dans les lieux publics pour faire réagir les passants. Alors un signe de tête, les policiers entourent Van, on le jette en prison. Pendant des jours, on le questionne. 100 fois, 200 fois, les interrogateurs se relaient pour lui arracher des aveux, hein, c'est la vieille tactique policière communiste. On va jusqu'à l'accuser d'avoir séduit une fille de la police, puis on prétend la lui faire épouser. Mais Van résiste, c'est le cachot. Il me reste l'amour, dit-il. Je suis la victime de l'amour, il est tout mon bonheur. Un bonheur indestructible. On l'autorise à recevoir quelques visites. En novembre 55, un homme libéré rapporte cousu dans le col de son vêtement plusieurs billets du frère Marcel Van. Sa petite sœur Anne-Marie T., qui est moniale rédemptoristine au Québec, il lui écrit « L'ennemi est malhonnête et très rusé. Prie beaucoup pour moi, afin que j'aie le courage de lutter avec ardeur jusqu'au bout. » À 28 ans, en 56, en juillet, nouveaux interrogatoires. Il est calme, il est maître de lui. Et il dit « Je n'ai pas avoué un crime que je n'ai pas commis. » On le condamne à 15 ans de réclusion. Il est transféré dans un camp à 50 kilomètres d'Hanoï, dans un vrai goulag. Il y trouve un frère trappiste, une religieuse, des centaines de catholiques qui sont fermes dans la foi. Presque tous les prisonniers sont très pauvres. Mais rien n'abat Van, il est entièrement donné à tous. Il écrit « Tous viennent à moi, pensant que je suis un homme inépuisable. Il faut bien que je me donne. » Et peu à peu, jour après jour, Van marche vers la plénitude de l'amour. Il écrit « Dieu lui-même m'a donné sa voix, m'a fait savoir que j'accomplis sa volonté. Je suis prêt à suivre ta volonté, comme tu suis toujours la mienne, me dit Dieu. Mais il y a des âmes qui ont encore besoin de toi. Sans toi, il me serait impossible d'arriver jusqu'à elles. C'est pour ça qu'il faut rester au poste en dépit de tout. » En août 57, il est transféré encore. On le déclare irrécupérable, il devient une locumène. Le 10 juillet, à 10 heures, il gémit, puis un prêtre accourt vers lui, se penche. Le prêtre prie à son chevet, lui donne l'absolution, et le frère Van entre dans la lumière de Dieu. Et du corps de ce petit frère rédemptoriste, il ne reste qu'une misérable enveloppe décharnée. C'est un enfant du Vietnam, parmi tant d'autres. Aujourd'hui, Van est plus proche du cœur de Jésus. Il retrouve Thérèse de Lisieux, qui désirait être missionnaire et carmélite au Carmel de Saïgon. Au cœur de l'Église, ma mère, disait Thérèse, je serai l'amour. Et ce petit frère Van y est parvenu lui aussi.